Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur RCF. Aujourd'hui, je reçois Gérard Esmiol, représentant du Parti communiste des Alpes de Haute-Provence. Gérard, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va parler de trois sujets. D'abord de l'intercommunalité, du désenclavement et puis on terminera par les présidentielles 2012 qui seront dans à peu près 7 mois, qui sont aussi si attendues des Français. L'intercommunalité. On va un petit peu savoir la position de votre parti, Gérard Esmiol. On sait que l'intercommunalité de Manosque, qui a un bassin prévu de 60 000 habitants, se construit pas trop mal, voire plutôt bien. On se rend compte que sur le bassin dinois, avec un apport estimé d'une 30 000 personnes, à peu près 30 000 habitants, a un peu plus de mal à se construire. Pourquoi, à votre avis, ça a mis du mal à se construire? Est-ce que il y a un problème de méconnaissance des dossiers. Vous, le conseil municipal de la ville de Digne, a voté ce projet à l'unanimité, je crois, si je ne me trompe pas.
Sauf les élus
Sauf
communistes.
Sauf les élus communistes. Pourquoi?
Oui. Les élus communistes et la droite, me semble, oui. A voté contre aussi,
peut-être,
ou s'est abstenu.
Hein. Voilà. S'est abstenu, peut-être, ouais.
Alors pourquoi? Nous, on est pour une intercommunalité choisie et désirée, pas une intercommunalité contre les communes.
Imposée.
Imposé ou contre les communes. Alors pourquoi je dis contre?
Pourquoi contre les communes? Au
contraire, parce qu'à un moment,
c'est un moyen justement de mutualiser les moyens et de pouvoir être plus fort dans un contexte géographique pas forcément favorable.
Je le pense pas. Je pense que d'un premier temps, qu'est-ce que c'est? Il faut se poser la question, c'est quoi la démocratie? C'est à un moment donné des citoyens qui vont voter et qui choisissent des élus. L'intercommunalité s'est choisie au deuxième degré. Ça veut dire que les citoyens votent pour un maire, un conseil municipal, et c'est eux qui vont siéger à la communauté des communes, comité ou communauté d'agglomération. D'un point de vue démocratique, ce n'est pas très sympathique. La démocratie fait qu'à un moment donné, il faut que chacun puisse voter pour qui ira siéger à la communauté d'agglomération ou de communes. Et je pense que le gouvernement actuel, il n'a pas été très très bon. Il aurait pu faire d'un point de vue, parce que quand on parle de démocratie, attendre 2014. Et qu'en 2014, quand on vote au niveau des municipales, il y a un fléchage et qu'on désigne automatiquement ceux qui vont siéger à la communauté.
Donc vous êtes partant pour que ce soit les citoyens qui votent les conseillers communautaires.
Oui.
Et
oui.
Plus les au sein des conseils municipaux.
Exactement.
D'accord.
Ça, c'est la première des choses. On prend l'exemple de la communauté d'agglomération qui doit se faire. La ville de Digne aura 28 délégués. La commune de Chantiercy, un, ou à la limite, peut-être deux, avec la commune d'Aiglun. Et tous les villages autour auront un représentant. Est-ce qu'à un moment donné, les préoccupations d'un petit village, je prendrai n'importe quel village. On va dire, est-ce que la fontaine de Chantiercy sur la place du village, un conseil d'agglomération va préoccuper les représentants de Moustier qui, lui, son souci, c'est de savoir si l'étoile va toujours briller, vous ou non, aux gorges du Verdon. Moi, je crois qu'à un moment donné, il y a des choses qu'on doit mettre en commun par le biais de syndicats mixtes, comme ça s'est fait pour l'aménagement de la Bléone, où tous les cours d'eau nous réunissent les villages et on discute et on a l'intelligence de travailler en coopération, comme le syndicat d'électrification. Et après, tout dépend du domaine des compétences. C'est le plus important, c'est ça. Parce que dans les compétences, ce qui est dangereux pour le futur, c'est que je prendrai la compétence, on va dire, des routes. Si à un moment donné, on dit ça va alléger peut-être les bourses des citoyens parce qu'on fera un appel d'offres pour toutes les routes de la communauté d'agglomération. Qui aura le marché? Ça sera les grosses entreprises. Le problème, c'est que les entreprises locales et les petits artisans vont dérouiller. Ça, c'est le problème économique et l'aspect humain. Deuxièmement, on va faire encore un grand cadeau à ces trusts qui se partagent le gâteau. Et ça, c'est très dangereux, je dirais, d'un point de vue économique. Et le mot mutualiser, qu'on emploie très souvent, vous savez, moi, de métier, je suis conseiller mutualiste. Alors, le mot mutualiser, je crois qu'en latin, ça veut dire ce qui est à moi est à toi, ce qu'on oublie. Mais là, le mot mutualiser, c'est pour rationaliser l'écoute. Alors, nous, en tant qu'élu, en tant que responsable et gestionnaire, on sait bien qu'il faut faire des économies, mais des économies pas contre les citoyens, des économies pour les citoyens. Si à un moment donné, il y a des doublons, il faut peut-être les éviter, mais il faut surtout en faire qui, à un moment donné, dans le cadre de l'accueil, dans le cadre de la, du besoin des citoyens, il y ait quelqu'un à leur écoute. Voilà.
Alors, la communauté de Manos, comme je le disais tout à l'heure, a une communauté de presque 60 000 habitants. Si digne, la préfète le dit, d'avoir deux jambes, le pôle manosquin d'un côté, le pôle dinois de l'autre. Si le pôle dinois n'est pas dans le schéma qui est prévu par le gouvernement, est-ce qu'il ne va pas être en décalage avec Manosque? Est-ce que, justement, l'installation de nouvelles entreprises, est-ce que l'expansion de Digne et du pays dinois va vraiment se faire en restant dans le schéma actuel?
Oui, moi je crois que après il faut ouvrir, je dirais, les yeux. C'est quoi l'histoire de Manosque? Manosque, c'est la grande entreprise, et c'est ITER qui crée la dynamique.
Oui,
mais ITER, attention, il crée une dynamique, on va dire, presque
sur
unique.
L'instant.
Et presque unique en France, hein, parce que dynamique, c'est grâce à ITER. Deuxièmement, en bas, ça sera le pôle emploi. Et nous, la communauté d'agglomération, ça sera un espace vert, un espace nature. Ça, ce n'est pas cohérent. Il faudra bien que les citoyens de notre communauté d'agglomération puissent travailler et vivre au pays. Ça veut dire qu'à un moment donné, on ne peut pas faire des communautés d'agglomération ou des métropoles comme on veut faire sur Lyon, Toulon, Marseille, contre les hommes. L'essentiel, c'est qu'il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce que c'est l'humain?
D'accord. Vous avez peur qu'à travers ces métropoles, le côté humain soit plus présent dans les priorités des gens?
Bien sûr.
Des politiques, en tout cas.
Bien sûr, parce que le côté des métropoles de Marseille, on va prendre la métropole de Marseille, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que nos enfants, nous-mêmes, on est appelés à travailler où? On va travailler dans la grande métropole. Au lieu de mettre une heure et demie comme on faisait avant pour aller à Marseille sans autoroute, aujourd'hui avec une autoroute, et vu le nombre de personnes qu'on a concentrées, qui amènent à la malvie, qui amènent à la délinquance, qui amènent de la souffrance, qui amènent du mal logement, tout simplement, il faut savoir doser les choses. Ça, c'est le capitalisme qui a voulu qu'on fasse des grandes métropoles pour faire plus de profits. Et ça, c'est très dangereux. Et je le dis, il faut que l'humain soit au cœur de nos préoccupations.
Mais a fortiori, et c'est là où on arrive sur le deuxième sujet du désenclavement, la communauté d'agglomération peut avoir un poids sur cette décentralisation. On parle d'un côté de la réouverture de la ligne chemin de fer Digne-les-Bains-Saint-Auban. On a parlé, puisque maintenant le dossier est clôturé sur l'autoroute Digne-Péruy, on parle d'une deux fois deux voies, d'un réaménagement. Est-ce que là, la communauté d'agglomération dont on parle depuis quelques instants, depuis quelques minutes, n'aurait pas un poids plus important pour faire avancer ce dossier-là par rapport à la ville de Digne qui peut-être se sent un peu seule et moins soutenue par peut-être le conseil général, peut-être d'autres partenaires? Est-ce que vous ne pensez pas que cette communauté d'agglomération aurait un poids plus important pour justement traiter ce dossier du désenclavement?
Très sincèrement, je pense que ceux qui peuvent penser ça, ou ils manquent de compétences, ou ils se moquent des gens. Nous, fut un temps, il y avait une gare, et depuis 1989, la ligne Digne-Saint-Auban a été fermée. On voit bien qu'il y a 18 000 véhicules qui rentrent par jour dans Digne, et tout simplement, nous, on se bat depuis des années pour la réouverture de cette ligne. Sur la deux fois deux voies, ça fait 30 ans que les élus communistes nous avons demandé une deux fois deux voies. On ne nous a pas écoutés, on est parti sur l'autoroute. Après, on nous a
oui,
dit
mais
que
ça, c'est Serge Gloaguen qui est parti sur l'autoroute en solitaire aussi.
Vous savez, M. Gloaguen fait le choix qui le souhaite. Nous, on a maintenu cette position, et si on nous avait écoutés depuis longtemps, on n'en serait pas là. Deuxièmement, ce n'est pas parce qu'on a l'autoroute à côté de soi qu'on va mieux se développer. Attention à ça. Je prendrai Péruy avec la Cassine. À la Cassine, il y a des terrains tout autour de l'autoroute.
Ouais.
Et il n'y a pas un développement plus. L'essentiel, c'est de faire le choix du bon développement. Il va de soi qu'à Digne, il manque une zone d'activité. Une zone d'activité, ça ne veut pas dire une zone commerciale et une grande surface en plus. Mmh. C'est une zone d'activité pour accueillir des entreprises et des entreprises qui ne polluent pas. Il y a des domaines, vous savez, où on peut s'ouvrir, comme a fait Manosque dans le cadre avec l'Occitane et toutes ces plantes à parfum, je veux dire, les autres entreprises, BA ou
autre. La zone d'activité, Gérard Esmiol, elle s'en va, tous les commerces s'en vont sur Chantercy-Aiglun. par rapport à divers problèmes des impôts et autres. Pourquoi vous laissez partir ces entreprises dernièrement? Une entreprise dinoise qui était au niveau des Arches est partie sur Champtercier. On ne peut pas citer le nom parce qu'on ferait de la publicité gratuite, mais ces entreprises-là qui sont sur le bassin dino, enfin sur la ville de Digne, qui peut apporter un petit peu des ressources à la ville, s'en vont sur d'autres villes. Comment ça se fait que la ville de Digne ne les retienne pas à travers peut-être une négociation, une discussion autour de cette problématique-là et de rester, d'inciter les gens à rester?
Je crois, M. Tripodi, je ne peux pas vous laisser vous dire ça, parce que la compétence de la communauté des communes de la CC3V, c'est ils ont la compétence économique. Ils ont fait une zone économique qui est au Basse-Sieille, on va dire après l'hôtel Saint-Michel, quand vous descendez, c'est déjà tout rempli. On sait qu'il y a des entreprises qui sont parties sur Aigleux, mais qui ont un souhait et qui veulent revenir à Digne. Parce que vous savez, sur la carte de visite, quand vous allez d'un petit village, ça fait un peu plus sérieux quand vous êtes dans une grande ville comme Digne que d'un village à côté. Après, sur le citoyen qui a préféré quitter les Arches et aller à Champtercier, je pense que c'est plus pour des raisons familiales et qu'il avait peut-être déjà des locaux.
Voilà. D'accord.
Mais je suis comme vous. Je suis salarié de l'entreprise et dans le cadre de mon travail, je démarche les entreprises. Nous avons besoin de l'activité au niveau de Digne. C'est pour ça qu'il faut développer cette zone d'activité. Il y a une étude qui va être lancée pour la ZAC de Gobert. Et je n'ai qu'un souhait, c'est que quand l'étude est lancée, on a eu les subventions, que dans le mandat prochain, ceux qui seront élus, ben, continuent à mettre tout en place pour que nos amis dinois, les bas alpins, puissent travailler et vivre à Digne.
Parce que la ville est malgré tout, le cadre de vie dont on parlait dans une précédente émission est quand même relativement important et bienvenu. À Digne-les-Bains, on est quand même dans une ville où on s'y sent bien, où on est bien, où on n'est pas forcément stressé par les tumultes du quotidien.
Oui, on a le bonheur de vivre à Digne. 300 jours de soleil, voilà. Il fait bon vivre. Il y a le plan d'eau, il y a la géologie, il y a la Via Ferrata, il y a les thermes. On est à 1h30 de la montagne. Voilà.
D'accord. Alors, concrètement, pour clôturer ce sujet du désenclavement, vous, en tant que parti communiste ou en tant qu'élu de la ville de Digne, avec votre casquette d'adjoint, vous préconisez quoi pour cette future communauté d'agglomération? Est-ce que vous la souhaitez ou est-ce que vous souhaitez un aménagement?
Je m'excuse, je vais revenir juste sur la deux fois deux voies. Il faut savoir qu'au niveau de Maligé, du rond-point de Maligé jusqu'au rond-point des Ammonites, la route appartient encore à l'État. Les 12 kilomètres de travaux à faire, c'est à l'État de les faire. Ce n'est pas, on va dire, un coût excessif.
Oui, mais vous vous rendez compte que
c'est 120 millions d'euros. Ça veut dire que l'État
se désengage
et que la politique de Sarkozy depuis 10 ans a été pas bonne pour ce pays et que M. Mariani, qui est chargé du transport, est complètement incompétent et qu'heureusement qu'il n'est pas devenu président du conseil régional. Ça, si vous voulez, ça c'est...
Ah, vous allez au-delà de ça, c'est-à-dire que vous traitez ce monsieur d'incompétent parce qu'il n'a pas la clairvoyance de ses...
C'est l'incompétence qu'on n'a pas capable d'avoir 5 millions d'euros pour faire du rond-point de Maligé jusqu'à rond-point des Ammonites, des projets qui datent depuis 20 ans, c'est qu'on n'est pas compétent et que ce monsieur ne connaît pas du tout ses sujets.
Ses sujets, d'accord. Donc, concrètement, pour vous, la communauté d'agglomération, oui, non? Quels moyens on a de trouver un projet, un plan B éventuellement, si ça se fait pas? Qu'est-ce que vous préconisez, vous?
Moi, ce que je préconise, c'est qu'en 2014, qu'il y ait le vote démocratique et que les citoyens choisissent qui ira siéger, une communauté au service de l'homme, pas une communauté au service d'une ville ou d'un village, qui ait des choix partagés, et que ce soit surtout, je dirais, une communauté qui soit dans notre compétence économique et touristique, mais qui n'est pas simplement une vision que touristique, parce qu'il faut aussi pouvoir vivre et travailler à Digne.
D'accord. Et on le voit très bien que le tourisme a aussi une part prépondérante dans ce bassin dinois, où il y a du potentiel, mais en même temps, est-ce que c'est bien exploité? Est-ce que... que voilà, on arrivera à exploiter.
Il y a des choses qui sont bien exploitées, après il y a des choses qui nous échappent. On va prendre les termes. Les termes sont passés en régime municipal.
Il y a une communautaire.
Communautaire, je m'excuse, vous avez raison, monsieur Tripodi, vous connaissez encore mieux que moi le sujet. Communautaire. Si vous voulez, l'aspect qu'on va dire qui est très positif, ça marche mieux, il y a plus de personnes qui sont venues en terme, mais il y a aussi un inconvénient, c'est que je pensais qu'il allait avoir une progression encore plus forte, mais on s'aperçoit qu'à Digne, ils ont, vous savez, quand vous faites la cure, vous avez 3 surveillances à faire. Toutes les semaines, il faut aller voir le docteur. Le problème, c'est que le docteur dans la ville de Digne, c'est comme dans toute la France. Comme on a bloqué les numéros clausus, ça fait qu'il y a moins de toubib. Mmh. Et le problème, c'est que s'il n'y a pas de toubib dans la ville de Digne, la cure, vous ne venez pas en cure à Digne. Ça, c'est le problème. À un moment donné, que l'État français doit aussi régler. Ce n'est pas simplement de faire croire qu'une municipalité peut tout régler. Là, c'est pareil. Il faut une politique nationale volontariste.
On se rend compte d'ailleurs dans on va parler de notre département, mais on peut le généraliser dans les petits départements aussi, c'est que les médecins, les professeurs et autres ne viennent pas dans nos départements parce que souvent les conjoints n'ont pas de travail. Est-ce que c'est aussi cette problématique-là, c'est que lorsqu'il y a un médecin alors surtout en particulier les médecins femmes qui vient s'installer sur notre département, l'homme n'a pas forcément le travail derrière, ou alors inversement, n'a pas forcément le derrière. Est-ce que c'est pas ça le problème? Pourquoi les médecins ne viennent plus dans les zones rurales comme nos départements? Est-ce que c'est pas ça le problème?
C'est vrai que ça y contribue. Avant, on va dire que les professions libérales avaient des revenus très suffisants et c'était plutôt le mari qui travaillait et l'épouse restait à la maison. Aujourd'hui, c'est souvent les femmes, les dames,
c'est qui travaillent, les hommes qui restent à la maison.
Et les maisons qui restent à la maison. Je ne citerai pas un journaliste éminent que je connais à Digne qui a fait ce choix.
Mais c'est un choix très bien, hein, je vous le rassure. Je le conseille à plein de personnes.
Et je vous dis sincèrement, c'est vrai que ça pose un problème. Et ça pose un problème du développement économique. Comme quoi, il ne faut pas tout concentrer dans des métropoles ou dans des communautés d'agglomération, que d'un côté il y aura l'aspect économique et que de l'autre côté il n'y aura que l'aspect touristique.
D'accord. On va prendre le dernier sujet qui est aussi intéressant par rapport aux habitants de notre département et puis à nos auditeurs, c'est les présidentielles. On va faire un petit tour vers les primaires du Parti Socialiste. Quel regard avez-vous porté sur ces primaires? Est-ce que vous avez trouvé que c'était un vrai moyen de démocratie ou est-ce que ça a été un coup de publicité pour le parti? Quel regard vous portez sur ces primaires?
Sur la démocratie, je pense que chaque fois que les citoyens peuvent voter, s'expriment, c'est toujours un plus. Je pense que le Parti Socialiste, d'un point de vue démocratique, ils ont bien joué. C'est bien, c'est pas mal. On ne peut pas dire que c'est mauvais, il faut être honnête. Ça a été un succès, c'est très bien. Mais ça, c'est une vision à court terme. À long terme, c'est très dangereux, on pourrait dire, pour la démocratie. Pourquoi? Parce qu'on va aller, si vous voulez, dans ce vote-là, à quelque chose qui est très dangereux. C'est parce qu'on va aller sur, on dirait, la bipolarisation de la vie politique. Ça veut dire qu'on est en train de nous faire croire dans ce pays qu'il ne pourrait avoir que le Parti Socialiste d'un côté et d'autre côté que l'UMP.
À d'autres, on pourrait dire, les deux gros partis, cela
c'est
dit.
Les deux gros partis, pour l'instant. Vous savez, tout change.
Après, tout peut changer, c'est sûr.
Vous savez, il y a le centre qui la dernière fois avait fait 16%. Mmh. Il y a les écologistes qui ont fait, on va dire, 12-13%. Et dans ce département, le Parti communiste, avec le Front de gauche et le Parti de gauche, nous avons fait 14% la dernière fois au cantonal. Voilà.
D'accord. Donc, la partie aussi, ce qui a surpris quand même quelques Français, c'est 1 euro. Jean-Louis Bianco, sur notre antenne, expliquait que c'était pour financer ces primaires. Est-ce que vous pensez, vous, que c'est aux Français de régler ces frais administratifs des primaires? Parce que ça aussi, ça a un peu surpris certaines personnes. Il y a eu une charte à signer. Est-ce que les gens ont bien compris ce qu'il y avait sur cette charte-là? Monsieur Bianco se félicitait sur notre antenne qu'il y a beaucoup de gens qui ont laissé leurs coordonnées pour adhérer au projet socialiste. Vous, votre position par rapport à ces euros, 7 euros demandés et à cette charte et à ces coordonnées qui sont laissées, qu'ils ont été autorisés par les différentes autorités compétentes. Est-ce que vous avez une idée, une opinion là-dessus, ou est-ce que vous êtes contre?
Moi, je pense que le Parti socialiste, ça regarde que le Parti socialiste. Il a fait ce qu'on appelle une votation, ça lui a engagé des frais, il encaisse. Si les citoyens veulent payer, c'est leur choix perso. Moi, à titre personnel, je ne suis pas allé voter parce que, vous savez, en dehors des 2 euros, l'année prochaine, il va falloir voter 4 fois, 2 fois au présidentiel et 2 fois aux législatives. Mmh. Ça fait déjà pas mal pour se déplacer. Bon, après, c'est le choix de chacun. Moi, je ne me permettrai pas de porter une critique sur le Parti socialiste. Oui. Il organise. Et après, les citoyens, s'ils veulent payer, ils payent.
Ils adhèrent ou pas.
Voilà.
Alors, on va parler du Parti communiste et des présidentielles. Comment vous vous situez par rapport à ça, par rapport à ces présidentielles-là? Est-ce que le candidat du Parti communiste va pouvoir se retrouver peut-être au deuxième tour face à un autre candidat? Comment vous allez mener votre campagne, vous, en local, pour donner la légitimité à votre candidat national?
Mais nous, la différence, c'est que, d'un point de vue média, je remercie la radio de nous faire passer. Vous savez que si on avait eu le même temps d'antenne que le Parti socialiste, je ne pense pas que notre candidat Jean-Luc Mélenchon serait à 6% aujourd'hui dans les sondages, mais il serait peut-être à 15 ou à 20, parce que ça, c'est comme le fromage. Hein. Au plus vous passez la télé, au plus c'est bon. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que le Parti communiste, comme ça s'est passé, nous avons eu un vote à l'interne. Pourquoi? Parce que pour l'instant, on a encore décidé que c'est ceux qui payent une carte qui décident du candidat qui veut. Peut-être qu'un jour, il y aura une évolution autre. Nous avons fait le choix. Il y avait Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Travagne et André Chassaigne. Les communistes ont voté et ont fait le choix de présenter quelqu'un qui est membre du parti de gauche, qui est Jean-Luc Mélenchon, et qui portera les couleurs du Front de gauche. Nous, dans ce département, nous allons nous organiser pour mener une campagne très forte et pour que nous faisons un score au-dessus de 10%. Ça, c'est la barre qu'on se fixe. Tout simplement, c'est qu'à un moment donné, au plus, les forces progressistes, les forces du Parti communiste, du Parti de gauche réunis feront un très beau score, au moins ça ira dans la souffrance des gens. Alors pourquoi je dis ça? Parce que dans notre programme, nous c'est clair, sur la retraite à 60 ans, on veut y revenir.
Vous pensez que c'est réaliste ça?
Bien sûr que c'est réaliste. Vous croyez qu'on ne marche pas sur la tête dans ce pays de faire travailler des gens au-dessus de 60 ans alors qu'il y a des jeunes à 20 ans qui ne vont pas travailler? Si on était dans un pays...
Oui, mais c'est par rapport au financement de la retraite, c'est ce qu'on nous dit. Il faut travailler plus parce que le financement ne pourra pas avoir lieu si on reste à la retraite à 60 ans.
Écoutez, il faut qu'on arrête de nous amuser, qu'on parle globalement des choses. D'abord, c'est possible. Deuxièmement, les moyens d'argent, on peut le prendre. Regardez, Sarkozy, il a fait 12 milliards de cadeaux en 4 ans. Et nous, on nous fait croire qu'il n'y a pas d'argent. Quand on fait la guerre en Afghanistan, une guerre qui ne nous sert à rien, combien de millions d'euros on a mis dans cette guerre pour envoyer de la souffrance, pour envoyer du mal, et qu'on n'a réglé aucun problème? On voit bien que cet argent-là, on pourrait le prendre et le mettre sur la retraite. On a aussi des propositions. On peut taxer les revenus. Alors, on ne veut pas mettre les capitalistes sur la paille, mais à un moment donné, il faut qu'il soit dans une société de partage. Vous êtes d'une radio de partage. Je crois que l'Église chrétienne, c'est le partage. Les communistes, on est aussi dans le partage. Alors dans le partage, c'est pas de prendre aux plus pauvres pour qu'ils soient encore plus pauvres. C'est qu'à un moment donné, dans ce pays, il y a des trusts capitalistes qui payent. Et tous les soirs, moi, je vous invite à quitter votre radio, mais pas longtemps, 3 minutes, et vous écoutez France Info qui vous dit la bourse et les échanges boursiers qu'il y a tous les soirs. Si on les taxait simplement de 1%, vous serez surpris des sommes qu'on pourrait récupérer au domaine de l'État. Et à un moment donné, ces grands trusts, il faut que ce soit eux qui payent pour que dans ce pays, tout le monde puisse vivre. On ne peut pas continuer où il y a des gens qui vivent avec un seuil de pauvreté au-dessus de 800 euros, pour ne pas dire 900. C'est 11 millions de personnes. Il y a des fondations comme l'Abbé Pierre qui se bat pour qu'il y ait moins de souffrance et ce problème de logement qu'on connaît un petit peu, nous, dans la ruralité, mais qu'on voit plus dans les grandes villes, comme Gap, Digne ou Manosque. Et là, à un moment donné, il faut de l'argent, il faut aller sur le partage des richesses.
Alors, Gérard Resmolt, en 30 secondes, parce qu'on est vraiment à la limite de la fin de l'émission, dernière question que je pose à tous mes invités, quel message vous pouvez donner, quel appel vous pouvez faire aux Français qui ne croient plus à l'homme politique, qui ne croient plus à l'homme politique, qui est désespéré face au pouvoir d'achat, face au salaire, au gel des salaires, etc. Quel message en 30 secondes vous pouvez donner à ces gens pour qu'ils reprennent confiance et qu'ils aillent voter aux législatives et aux présidentielles en 2012?
Je dirais une forme de boutade. Si un parti politique qui a fait payer 1 euro, vous avez la chance d'aller voter en France sans payer, de bien voter à un moment donné. Il faut voter par rapport à vos valeurs. Et vos valeurs, c'est quoi? Souvent sur cette radio, c'est les valeurs de partage qu'on entend. Je crois qu'à un moment donné, il faut partager les richesses. Une société se doit, à un moment donné, que tout le monde puisse vivre bien. L'humain, il faut le placer au cœur de
tout. Mission des hommes politiques et de tout le monde.
De tout le monde. Et à un moment donné, on ne peut pas continuer de voir des gens dans la rue qui mendient, de voir des familles qui s'en sortent pas, des enfants qui ont des difficultés, qui amènent parfois de la prostitution chez les jeunes, parce qu'il ne faut pas se le cacher, pour finir la fin du mois. Et à un moment donné, les parents ne peuvent pas continuer toujours à payer éternellement quand les enfants ils sont au-dessus de 30 ans.
Merci beaucoup Gérard Resmolt d'avoir été notre invité. Les programmes continuent sur notre antenne. À très bientôt. Merci de votre fidélité. Au revoir.
Au revoir.